Radio G 101.5 FM.
Là
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Hi, c'est Fucking Fred avec un F comme Fucking Fred. J'ai décidé de sortir un tout nouveau son. Rien à voir avec si c'est le beat. Aujourd'hui, le problème c'est.
Ce soir, je vais vous présenter plusieurs livres, en particulier Rouge, Histoire d'une couleur de Michel Pastoureau et La petite histoire des colonies françaises. Et ensuite, Paul vous parlera d'un roman policier. Alors, le rouge est en Occident la première couleur que l'homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu'en teinture. C'est probablement pourquoi elle est longtemps restée la couleur par excellence, la plus riche du point de vue matériel, social, artistique, onirique et symbolique. Admiré des Grecs et des Romains, le rouge est dans l'Antiquité symbole de puissance, de richesse et de majesté. Au Moyen-Âge, il prend une forte dimension religieuse, évoquant aussi bien le sang du Christ que les flammes de l'enfer. Mais il est aussi dans le monde profane la couleur de l'amour, de la gloire et de la beauté, tout en étant également celle de l'orgueil, de la violence et de la luxure. Au XVIe siècle, les morales protestantes partent en guerre contre le rouge, dans lequel elles voient une couleur indécente et immorale, liés au luxe, aux vanités du monde et à la théâtralité papiste. Dès lors, partout en Europe, même dans les pays catholiques, le rouge est en recul dans la culture matérielle comme dans le monde des symboles. Ce recul traverse toute l'époque moderne et contemporaine et va en s'accentuant au fil du temps. Toutefois, à partir de la Révolution française, le rouge prend une dimension idéologique et politique. C'est la couleur des forces progressistes ou subversives, puis des partis de gauche, rôle qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors ce livre, écrit par Michel Pastoureau, il est soutenu par une abondante iconographie. C'est le quatrième ouvrage d'une série consacrée à l'histoire sociale et culturelle des couleurs en Europe. Rouge, l'histoire d'une couleur, fait suite à bleu en l'an 2000, noir en l'an 2008 et vert en 2013. Alors il existe deux versions de ce livre, une version au livre de poche, et puis une belle version à 39 euros, aux éditions du Seuil avec de très très belles images. Voilà, donc Rouge, l'histoire d'une couleur de Michel Pastoureau, aux éditions du Seuil, 39 € ou en livre de poche. Le deuxième livre dont je veux vous parler ce soir, c'est une bande dessinée. C'est même plutôt une série de bandes dessinées créée par Grégory Jarry et Otto T et qui s'appelle Petite histoire des colonies françaises. Alors cette petite histoire des colonies françaises, elle a été éditée en album de 2006 à 2011 par les éditions FLBLB. D'ailleurs, le premier tome a gagné un prix au festival d'Angoulême. Alors, Petite histoire des colonies françaises passe en revue toute l'histoire de la colonisation française, de la décolonisation et de la France-Afrique, sans oublier de détails historiques ou politiques. À travers de nombreux faits et anecdotes, Grégory Jarry et Otto T font vivre 5 siècles de l'œuvre coloniale française. Dans les 3 premiers tomes, l'histoire coloniale française est narrée par Charles de Gaulle, portant étonnamment une barbe. Et à partir du 4e tome, un François Mitterrand tout aussi barbu prend le relais pour raconter l'action néocoloniale de la France envers ses anciennes colonies d'Afrique. Puis il fait l'historique des vagues migratoires qui ont contribué à peupler la métropole. Tout au long de ces 5 tomes, de nombreuses personnalités politiques et historiques, d'hier et d'aujourd'hui, aussi bien françaises qu'étrangères, aussi bien célèbres qu'inconnues, font leur apparition. On peut aussi noter l'apparition de nombreux peuples et nationalités des 5 continents. Les auteurs étaient mécontents des déclarations sur le rôle positif de la colonisation et avaient choisi de publier d'abord une petite histoire du Grand Texas en 2005 afin de traiter du colonialisme. Ils approfondissent ici le sujet dans cette série sur les colonies françaises où les méfaits du colonialisme sont traités sous un angle humoristique. En effet, les 2 auteurs racontent l'histoire de la colonisation avec un ton très critique, empreint d'ironie et d'humour cinglant. L'objectif de cette série est de démystifier l'histoire coloniale de la France. Comme l'histoire est racontée du point de vue des esclavagistes, le style d'écriture est ancré dans le racisme colonial que les auteurs dénoncent. Par exemple, les peuples autochtones de l'Amérique du Nord sont invariablement appelés indiens. Donc, les 5 tomes, je vous les décris rapidement. Le premier tome, c'est l'Amérique française. Donc, dans cet album, Grégory Jarry et Otto T racontent l'histoire de la colonisation des Amériques, depuis la découverte du Canada au XVIe siècle jusqu'à l'indépendance d'Haïti en 1804. Le tome 2 s'intitule « L'Empire ». Dans ce second album est évoquée la constitution de l'empire colonial français dans les continents africains, asiatiques et océaniques, de la conquête de l'Algérie en 1830 à la Première Guerre mondiale. Le tome 3 est sur la décolonisation. Il explique comment la France, qui avait un empire colonial de 12 millions de kilomètres carrés en 1914, est devenue un pays comme les autres à la fin des années 60. Le général de Gaulle explique ce phénomène qu'on nomme décolonisation. Le tome 4 est sur la France-Afrique. Les 2 auteurs s'attaquent avec vigueur à la France-Afrique. On retrouve de nombreuses personnalités politiques actuelles de la France et de l'Afrique, ainsi que des acteurs tels que Bob Denard ou Jacques Foccart. Et puis le dernier tome sur les immigrés. Comment la France est-elle devenue un pays d'immigration? Et donc ce dernier tome montre l'envers de la colonisation en retraçant l'histoire des vagues migratoires qui ont peuplé la France depuis les débuts de la Révolution industrielle. En 2014 a été publiée une intégrale de la petite histoire des colonies françaises, préfacée par Catherine Cochry-Vidrovitch, qui est historienne. L'accueil critique a été bon, puisque le premier tome, je vous l'ai dit, a obtenu un prix au Festival d'Angoulême. Et puis, des expositions ont eu lieu dans le sillage de l'œuvre, et les ventes, maintenant, s'élèvent à plus de 70 000 exemplaires, donc c'est un véritable succès. Voilà, donc je vous conseille aussi cette bande dessinée, Petite histoire des colonies françaises, aux éditions FLBLB.
Shock Radio FM.
Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de Boréal, un thriller de Sonia Delzongle, paru chez Folio Policier. On est en janvier 2017 au Groenland. Là, dans le sol gelé, un œil énorme fixe le ciel. On peut y lire une peur intense. C'est ainsi que 6 scientifiques en mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un autre, et encore un autre. Autour d'eux, des centaines de cadavres sont prisonniers du permafrost, devenu un immense cimetière. Empêtrée dans une vie privée compliquée et soulagée de pouvoir s'immerger dans le travail, Luv s'envole vers le Groenland. Ils sont maintenant 7 hommes et femmes isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition. Donc, l'auteur Sonia Delzongle est née en 1967. Elle a exercé le métier de journaliste pendant 6 ans, tout en commençant à écrire, riche de sa culture franco-slave et de sa passion pour le noir. C'est avec Dust, folio policier numéro 796, qu'elle fait une entrée remarquable dans le monde du thriller. Sonia Delzongle vit aujourd'hui à Lyon et se consacre à ses romans. C'est un roman qui m'a plu, car il y a beaucoup de suspense et que la fin est très surprenante.
Rafale, dos, sous-côté, sous-côté, sous-côté gang.
Yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah.
C'est vrai qu'on est plus là où on était, mais pas encore où on doit être. Confondez pas être déter et être obstiné, c'est pas pareil. Peut-être que si j'ai ce que tu n'as pas, c'est que j'ai fait ce que t'as pas fait. Je sais pas ce que ton dit, c'est tard pas, mais je serais prêt à jurer que c'est pas vrai. Jamais étaient ceux qui attendent les passes, car ceux qui attendent les passes finissent tous aigris à rager. J'ai fait le chien car t'es une chienne, donc les torts sont partagés. J'ai pleuré larmes diluviennes quand un frère me fut arraché. Ou alors ça, j'ai trois yeux, deux pour regarder, un pour voir. Et je crois que je mourrais pas vieux. Et je dis même pas ça pour émouvoir. Je rêve de trucs sur lesquels t'oserais même pas cauchemarder. Allo Fall, ouais c'est dos, dis-leur que la bombe est larguée.
Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, yeah. Pour être le best, yeah. Faut être bestial. Appelle-moi le fin premier du nom. Quête mon CV, j'ai cogné du monde. J'ai jamais vraiment bloqué sur le nombre de rappeurs à qui j'ai fait de l'ombre. Les projecteurs sont capricieux. J'attends mon tour avec impatience. Et mes refrains, je l'échelle à pas des yeux. Comme si je pouvais pas faire impatience. The boy, la qualité ça coûte cher. En un clip, j'éclate le budget. Indépendant, je porte mes couilles, j'ai pas le choix, j'écris mon nom sur le chèque. Next album est dans le téléphone. Je fais pas ça pour attraper des folles. Bien sûr, je le fais pour le bénéfo. C'est quoi le délire, je suis un bénévole. Voilà, les gens, c'est des haineux. Quand je l'ai compris, j'ai dit mais non. J'écoute les conseils, mais trop de conseils, ça me ralentit dans mon élan. Me fais pas croire que tu m'aimes, non. T'es attiré par les néons, mmh. Ou par les sommes, tu seras pas celle qui me consolera quand je serai seul. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, non. Pour être le best, yeah. Le best. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, non. Pour être le best, yeah. Le best. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, non. Pour être le best, yeah. Le best. Faut être bestial, yeah. Des fois je suis spécial, yeah. Demande pas qu'est-ce qu'il y a, non. Pour être le best, yeah. Le best. Faut être bestial, yeah.
Plus loin du micro. Parlons plus loin du micro, nous la remettons pas vite fait.
Bonjour à tous, c'est Héloïse en direct de Nantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler série. Je vais vous parler d'une série qui m'a beaucoup émue et que je trouve nécessaire parce qu'en fait elle apprend beaucoup de choses sur une religion dont en fait je me rends compte que je connaissais rien. Cette série dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Unorthodox. Unorthodox, qui veut dire littéralement non orthodoxe, c'est une mini-série dramatique allemande en 4 épisodes de 55 minutes créée par Anna Winger et Alexa Karolinski et qui est sortie le 26 mars 2020 sur Enix. Il s'agit de l'adaptation de l'autobiographie Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, on juge pas mon accent anglais, de Deborah Feldman, qui est sortie en 2012. Donc Esther, en fait, c'est une femme de confession juive ultra-orthodoxe de 19 ans qui décide de fuir un mariage arrangé par sa famille à Williamsburg, qui est un quartier de Brooklyn, et elle part pour Berlin en Allemagne. Et après avoir appris sa grossesse, son mari décide, même s'il est conscient qu'elle était malheureuse dans son mariage, de partir lui aussi pour l'Allemagne avec son cousin dans le but de la retrouver. Malgré les difficultés, en fait, Esti, elle retrouve peu à peu son indépendance, son intimité et sa féminité. Et en fait, elle apprend à trouver sa place dans la société moderne. Et elle remet en question ses convictions, elle brise les règles et elle s'affranchit de sa famille. Et du coup, on va voir des flashbacks de son ancienne vie qui viennent expliquer son chemin de croix vers une libération. C'est une série en fait qui est percutante parce qu'elle se penche sur le pouvoir universel de libérer sa parole sur des sujets importants comme le mariage, l'avortement, la famille, la religion, la justice et la diversité. La série, elle prend également aux tripes avec des scènes qui sont marquantes. Donc, comme celle où Esti, elle récite une chanson yiddish, alors que les femmes, elles n'ont pas le droit de chanter dans la religion ultra-orthodoxe. Et cette scène, on la prend comme un cri du cœur qui est libérateur. Donc, je vais pas spoiler, parce que du coup, j'aime pas ça, donc je vais vous offrir une chronique sans spoil. Donc, j'irai pas plus loin, mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que il y a une mise en scène classique, il y a un casting impliqué et il y a une histoire poignante. Et en fait, c'est une orthodoxe, c'est une réussite. Et elle s'inscrit dans la lignée des mini-séries de qualité estampillées NX, telles que Dans le regard et Unbelievable que j'ai vu, qui traite du viol et qui est une série qui est dure mais qu'il faut absolument regarder aussi. De plus, je vous conseille de regarder après la série le making-of. Donc il propose de raconter l'histoire de la création de la série et puis les coulisses du tournage. C'est tout pour moi cette semaine. Restez chez vous parce que je trouve qu'on vous le répète pas assez. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt sur les ondes de Radio G. Creature Shock
Radio FM. Alors en ce moment, j'ai le temps de regarder quelques séries, donc je vais vous en parler ce soir. Je vous en propose trois. Donc première série dont je souhaite vous parler ce soir, Atypical. C'est une série américaine de type comédie, créée par Robia Rachid. La première saison est composée de 8 épisodes, et la série consiste en un récit initiatique d'un adolescent. Et Netflix a commencé sa diffusion en août 2017. C'est l'histoire de Sam Garner, c'est un garçon de 18 ans vivant dans le Connecticut et ayant un trouble du spectre de l'autisme. Il annonce à sa famille qu'il veut avoir une petite amie. Alors son père, Doug, a eu beaucoup de mal à établir une connexion avec Sam depuis sa naissance et il est ravi quand Sam se rapproche finalement de lui pour obtenir des conseils sur les filles. Après avoir reçu plusieurs conseils, Sam décide d'offrir à la fille qu'il aime des fraises enrobées de chocolat. Donc Doug le conduit chez elle et découvre avec stupeur qu'il s'agit de sa thérapeute de 26 ans, Julia. Doug ramène rapidement Sam chez lui avant qu'il ne puisse voir Julia, qui n'a aucune idée que Sam est amoureux d'elle. Donc Doug lui conseille de fréquenter des filles de son âge. Alors Sam décide qu'il lui faut une petite amie avant de pouvoir réellement commencer à fréquenter sa thérapeute. Alors avec l'aide de ses amis et de sa famille, il va commencer à apprendre les nuances sociales de l'amour. Alors que Sam devient plus indépendant, sa mère Elsa, qui a toujours été très protectrice à son égard, en vient à se questionner sur sa vie. Et lors d'une soirée entre amis, Elsa rencontre un barman et entame une liaison avec lui. Il ne lui faudra que peu de temps avant de commencer à éprouver de terribles remords. Et enfin Casey, la sœur de Sam, elle bat un record en compétition sportive et elle est approchée par une grande école pour être recrutée. Elle rêve d'y aller, mais elle s'inquiète de laisser Sam se débrouiller seul dans son école. Donc la quête d'indépendance de Sam pousse toute sa famille à entreprendre un travail d'introspection. Donc c'est une série très sympathique, avec de très bons acteurs, en particulier Jennifer Jason Leigh, qui joue Elsa Garner, la mère de Sam et de Casey. Pour l'instant, on est à 3 saisons. Une 4e saison sera diffusée en 2021, puisque la série a été renouvelée. La série a reçu de bonnes critiques de la part de la presse, mais surtout des spectateurs qui saluent son originalité, le caractère attachant de la série, mais aussi son côté intelligent qui invite le spectateur à s'interroger sur ce qu'est la normalité. Cependant, malgré ses avis positifs, la série est critiquée pour représenter des traits trop stéréotypés des troubles du spectre de l'autisme et pour ne pas avoir attribué le rôle principal à un acteur réellement autiste. Deuxième série pour moi ce soir, Master of None. C'est une série américaine en 20 épisodes d'environ 30 minutes, créée par Aziz Ansari et diffusée en 2 saisons sur NX. Pour vous résumer Master of None, l'histoire raconte le quotidien banal de Dave, un acteur pour publicité, trentenaire et vivant à New York. Dave souhaite une nouvelle carrière, une vraie petite amie, mais il a des comme des cas de conscience. C'est vraiment un trentenaire new-yorkais qui est en train de devenir adulte. Donc Master of None, c'est une série, c'est une comédie dramatique. Il y a deux saisons. C'est créé par Aziz Ansari. Il est l'acteur principal. Il y a aussi des acteurs très drôles dans cette série, comme Eric Varenheim qui joue son ami. C'est sans prétention, mais c'est amusant. Je vous la conseille. Enfin, troisième série pour moi ce soir, Santa Clarita Diet. Alors je salue Héloïse qui m'a conseillé cette série. C'est une série américaine dans 30 épisodes d'environ 30 minutes. Pour l'instant, on en est à la troisième saison. Et en fait, on est dans la ville de Santa Clarita, en Californie. Sheila et Joel, ils sont agents immobiliers, ils sont les heureux parents d'une jeune fille nommée Abby. Mais un jour, Sheila se transforme en zombie et doit désormais apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. C'est vraiment très drôle puisque Sheila et Joel, ils mènent une vie tranquille. Ils élèvent leur fille adolescente en Californie. Mais leur monde change de manière inattendue, de manière radicale, hein, lorsque Sheila subit une transformation spectaculaire. Donc c'est vraiment réussi puisqu'on a deux acteurs excellents, Drew Barrymore que vous connaissez, Drew Barrymore que vous avez vu dans énormément de films, et Timothy Olyphant qui joue les parents, hein, qui joue Joel et Sheila. Ils sont très très drôles. Et puis il y a des acteurs récurrents que vous avez vu dans pas mal de séries télé qui sont aussi très amusants. Donc je vous la conseille, il y a trois saisons pour l'instant. L'accueil a été plutôt positif, hein, voilà, le casting est excellent, les rires sont fréquents. Donc Santa Clarita Diet, c'est aussi très sympa en ce moment. Donc je vous rappelle les trois séries pour moi ce soir, Atypical, Master of None et Santa Clarita Diet.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. To the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh. Easier said than done. I thought you were the only ceiling of my heart. Instead of my head, you found another one. But I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. The rise and fall.
gonna tell you.
101.5 FM.
Creature Shock Radio FM.
Chers auditeurs, bonjour, c'est Adrien sur Bande Geek Mafia, sur Radio G101.5 FM à Angers, en direct et en podcast. Alors, on se retrouve pour cette deuxième émission confinée à distance. Et donc, je remercie vraiment chaleureusement Seb qui nous permet de faire cette émission à distance. Je passe aussi le bonjour à mes super copains chroniqueurs, Anaïs, Seb, Héloïse et Olivier, à qui... je passe vraiment un bonjour chaleureux et j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose la première partie d'une chronique qui s'étalera sur plusieurs émissions où on va s'intéresser à de la musique geek. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un geek ? Alors, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le terme de geek est devenu tellement utilisé qu'on a parfois l'impression de ne pas savoir vraiment ce qui se trouve derrière. Surtout si on souligne qu'un geek n'est ni un nerd, ni un gamer, et pas non plus un no-life. Alors, peut-être qu'on peut s'accorder qu'il y a souvent un rapport aux écrans, à la technologie. Souvent aussi un attrait pour tout ce qui touche à la science-fiction. Alors, c'est un thème qui peut d'ailleurs faire penser à Isaac Asimov et à ses romans. Hein. Comme par exemple, Je n'ai pas peur des ordinateurs, avait-il écrit, j'ai peur qu'ils viennent à nous manquer. Et oui, le geek évolue ainsi dans un monde qui n'est pas toujours dénué de notre kitsch, mais c'est son caractère passionné qui le rend également fascinant. Alors certes, difficile avec tout ça de donner une définition bien précise, ce qui explique aussi la grande variété des musiques disponibles sur la thématique geek. Donc première partie, première émission aujourd'hui de ma chronique en rapport avec les musiques geek, et donc je vais retenir cette semaine uniquement les OST, donc Original Soundtracks de jeux vidéo. On va donc parler uniquement de musique liée aux jeux vidéo. Donc c'est parti pour une sélection de bandes originales, et c'est aussi l'occasion du coup pour vous chers auditeurs de faire le plein de musique cool à écouter en travaillant, ou bien avant de dormir, ou lorsque vous voyagez en ce moment entre votre chambre, le salon et la cuisine. Alors, les OST, hein, ça meuble pas juste un jeu, elles ont aussi un petit côté Madeleine de Proust, parce que si on aime les réécouter, c'est aussi parce qu'elles sont jolies, mais parce qu'elles nous rappellent aussi donc les heures, les jours et les semaines, voire les mois entiers qu'on a passé sur nos manettes et nos claviers à poncer des jeux qu'on adore et qu'on ne se lasse pas parfois de refaire. Alors moi j'en ai une longue liste, hein, elle est assez elle serait beaucoup trop longue à reprendre, mais vraiment c'est toujours un plaisir de réentendre certaines musiques. Alors les OST font aussi d'excellents fonds sonores, hein, pour travailler, pour ceux qui sont en télétravail, pour se concentrer, mais aussi pour s'évader ou se motiver à faire du sport, par exemple, voilà, dans sa chambre, sur son balcon quand on en a. Alors, la musique que vous entendez en ce moment, comme vous l'avez peut-être reconnu, Malaka que vous êtes, notre voyage musical geek commence avec la magnifique bande originale d'Assassin's Creed Odyssey, qui nous transporte et nous fait visiter la mythologique Grèce antique. Je vous laisse apprécier. Dans la ligne temporelle, nous voici maintenant dans l'Italie de la Renaissance où Ezio Auditore da Firenze va combattre les Templiers au cours des trois meilleurs jeux de la série Assassin's Creed, hein, les trois meilleurs d'après moi, où on va pouvoir explorer Venise, Florence, Rome et ses faubourgs dans une histoire absolument fantastique, géniale, les personnages étant magnifiquement construits, les ambivalences et les références historiques étant juste jouissives, et je rappelle évidemment, comme c'est propre à la série, l'immense qualité de la reproduction des villes qu'on visite. Donc vraiment une musique qui nous fait voyager. Je vous laisse écouter un petit peu. Il faut également croire que les jeux vidéo d'inspiration Heroic Fantasy, hein, et mélangés peut-être un peu à des SF comme Assassin's Creed ou historiques, ont en commun de belles sonorités quelque peu exotiques voire ésotériques. On a aussi la récente série télévisée The Witcher qui est une bonne occasion de nous replonger dans l'excellentissime The Witcher 3. On suit évidemment les aventures de Geralt de Rive. Donc un jeu là aussi, un monument du jeu vidéo, un chef-d'œuvre, vraiment un jeu auquel on ne peut pas ne pas avoir joué tellement il est formidable, où la profondeur des histoires n'est d'égale que vraiment la qualité des graphismes, des quêtes, du gameplay. Donc vraiment quelque chose de formidable. Et la musique évidemment participe à cette ambiance absolument extraordinaire. Que dire également de la bande originale de Skyrim qui a même été interprétée par l'orchestre symphonique du Danemark dans une reprise magnifique. Alors ce jeu dans lequel beaucoup d'entre nous avons passé des milliers d'heures à chasser les dragons ou bien à essayer désespérément de piquer quelques armes aux forgerons sans se faire attraper, souvent avec succès au bout d'un moment, mais quand même, à monter nos perks pour avoir le personnage le plus badass possible ou bien à le faire avec simplement des petits haillons, sa hache et son balai en mode RP. Je vais laisser maintenant un petit peu les univers féeriques et historiques pour partir dans l'espace où la dimension épique des musiques côtoie vraiment l'immensité des environnements et le vide qui peut s'entourer. On a des musiques peut-être un petit peu plus contemplatives mais qui sont capables d'accélérer lorsque l'action se fait sentir, et on commence avec le premier jeu auquel j'ai pu jouer sur la première Xbox et que vous avez sans doute déjà bien reconnu, qui avait été une véritable claque à l'époque. J'ai nommé Halo, et que l'on reconnaît donc immédiatement avec ce cœur de voix d'homme tout simplement magnifique, où on incarne donc dans ce jeu le Master Chief, un soldat humain génétiquement augmenté qui va être notre dernier espoir contre l'invasion des Covenants, une alliance de races aliens qui ont décrété que les humains étaient hérétiques et qu'ils devaient donc disparaître. Magnifique hein, vraiment tout simplement cette musique. Excellente série des Mass Effect, un véritable seigneur des anneaux de la science-fiction vidéoludique. Une odyssée en 2148 où l'on suit le commandant Shepard dans sa lutte pour unir les peuples de la Voie Lactée contre la menace des Moissonneurs, une mystérieuse race de machines cherchant à anéantir toute phase de vie organique dans la galaxie. Et oui, encore là aussi une saga triple A qui a été une véritable révolution dans le monde vidéoludique, puisque elle a transporté des centaines de milliers de joueurs à travers le monde dans les suites de l'aventure du commandant Shepard dans sa quête pour allier les Turiens, les Asari, les Geths, les Cariens, pour les unir autour d'une seule bannière pour affronter les Moissonneurs. C'était un jeu qui était formidable, où on pouvait vraiment... où les choix qu'on faisait avaient une influence sur la fin de l'histoire. Il y avait trois fins possibles dans Mass Effect 3. Donc voilà, c'était vraiment un jeu magnifique et sa bande originale lui rend vraiment honneur. Il n'est pas rare également que de grands groupes soient sollicités pour créer la bande originale de certains jeux, et les productions d'ailleurs peuvent d'ailleurs dépasser et de loin la qualité réelle du jeu. Alors c'est le cas pour moi avec League of Legends, où Imagine Dragons nous a proposé un titre monumental et épique, hein, parfait pour se motiver à sauver le monde, la galaxie, le destin de l'humanité, et le tout depuis notre fauteuil, pauvre confiné que nous sommes. Alors, bah oui évidemment, hein, le titre Warriors de Imagine Dragons, ça... et même le clip hein, qu'on va mettre sur la page Facebook de Bandit Mafia et dépasse vraiment à mon avis la qualité du jeu. J'ai pas vraiment accroché à League of Legends. Par contre, nous sommes des milliers hein, sur YouTube et autres à avoir accroché à ce morceau d'Imagine Dragons, qui est vraiment absolument génial, hein, comme pour tout morceau du groupe, vous direz-vous, hein, comme Radioactive par exemple. Mais vraiment là voilà, c'est un pur plaisir. Je vous laisse écouter, je me tais pour profiter. Peut-être un peu plus posé et quelque peu mélancolique, mais tout aussi capable de vous transporter, de vous donner des frissons, je vous conseille l'excellent thème de Destiny 2, ce MMO, Massive Multiplayer Online, créé par Bungie, le même studio à l'origine de Halo, où vous incarnez un gardien qui est un porteur quasi immortel de la lumière du voyageur et qui est aussi le dernier espoir de la dernière cité humaine sur Terre. Vous et vos alliés gardiens devez donc protéger l'humanité contre plusieurs races extraterrestres déterminées à s'emparer du pouvoir du voyageur, le voyageur qui est une entité extraterrestre quasi omnipotente et qui a choisi d'aider l'humanité contre les ténèbres. Donc c'est un jeu sur lequel en ce moment je passe beaucoup d'heures hein, le soir en période de confinement. Donc que je vous invite à rejoindre si vous y êtes pas, là il y a quelques petites nouveautés sympas en ce moment. Alors avant de terminer, petit détour sympathique et que je trouve particulièrement jouissif avec Fallout 4 du studio Bethesda, la seule bande originale qui fera danser vos grands-parents. Et oui, parce que vous sortez d'un bunker antinucléaire, un abri, après une apocalypse nucléaire globale dans une dystopie où les technologies futuristes côtoient les designs des années 50 et 60. Et oui, la série jouissive, qui a été jouissive pour moi jusqu'à Fallout 4, hein, oubliez complètement Fallout 76, tant pour son immense monde ouvert que pour ses ambiances et la richesse de son univers. Je vous laisse apprécier, c'est juste génial. Et ça passe super bien pour un début de soirée. Ceci. Alors pour terminer cette chronique, je vous propose l'alliance totalement improbable entre The Who, groupe de métal mongol, et EA Games pour l'excellent jeu Star Wars Jedi Fallen Order, sur lequel je reviendrai dans d'autres chroniques. Vous y incarnez Cal, un jeune padawan qui a survécu à l'ordre 66 de l'empereur Palpatine et qui doit trouver sa voie dans cette nouvelle galaxie dominée par le côté obscur. C'est juste monumental, et on va se terminer aujourd'hui sur ce morceau. Et chers auditeurs, jeune padawan que vous êtes de la musique, que la force soit avec vous. Dans ce monde confiné pour encore quelques semaines, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où on parlera ce coup-ci des OST de films. Restez chez vous, confinez-vous bien et profitez. Oh, you think I
Alors ce soir, je souhaitais aussi vous présenter deux magazines qui font du bien, qui sont vraiment utiles en ces temps de confinement. Alors d'abord, Les Trésors de la Littérature. Les Trésors de la Littérature, c'est un nouveau magazine, on en est au numéro 5. Et dans le numéro 4 que j'ai sous les yeux, on a un numéro spécial sur les mille et une nuits splendeurs d'Orient. Alors ce numéro des Trésors de la Littérature sont vraiment des pages pour s'instruire, pour découvrir des contes fabuleux, une civilisation raffinée, des figures mythiques, Sinbad, Aladdin, Ali Baba. De tous les personnages des mille et une nuits, on retient évidemment les noms d'Ali Baba, de Sinbad et d'Aladdin. Ces célébrités ont fait la fortune de cette littérature savante, aussi bien que populaire. Pour autant, ces nuits semblent toujours garder le secret de leurs origines. Sont-elles arabes, persanes ou même indiennes? De quelle époque datent-elles? S'agit-il vraiment de contes populaires? Laquelle des multiples versions existantes représente-t-elle le mieux l'œuvre? Autant de questions auxquelles on ne peut répondre sans se projeter dans la longue durée et dans la lecture de ce numéro pour lequel les meilleurs spécialistes ont été conviés. Et donc cette revue, elle est publiée depuis quelques temps, c'est un trimestriel, et ce numéro 4 sur les mille et une nuits est vraiment très beau. En dehors du dossier sur les mille et une nuits, on trouve énormément d'informations dans ce magazine. Si vous aimez le Moyen-Âge et la poésie, il y a tout un travail sur les laits médiévaux et l'AIS. Et puis vous avez aussi toute l'actualité littéraire, beaucoup de références pour les jeunes aussi, si vous voulez faire lire vos enfants, beaucoup de références sur des expositions. Ils en reviennent sur l'exposition Tolkien qui a eu lieu à la BNF récemment, avec beaucoup de ressources, d'illustrations. Les images sont très belles dans ce magazine. Il y a aussi des livres à découvrir, des documentaires, des films. C'est vraiment très varié. Donc, en dehors du dossier sur les mille et une nuits et sur la poésie du Moyen-Âge, on trouve vraiment énormément de références. Ça donne vraiment envie de lire. C'est pour les petits, pour les grands. Ça s'appelle Les Trésors de la Littérature. C'est un trimestriel. Ça fait 132 pages et ça coûte 12,90 €. Deuxième magazine que je voulais vous présenter, c'est Flow, F-L-O-W. C'est un magazine pour savourer la douceur de vivre et le bonheur des choses imparfaites. C'est un magazine pour ce qui fait se sentir bien, c'est un magazine de bien-être, si on veut. Il n'y a pas de honte en ce moment à vouloir se détendre, à vouloir réfléchir, méditer, prendre son temps. Voilà, c'est un magazine qui permet de prendre son temps, c'est exactement ça. Ça pourrait s'appeler Slow, puis ça s'appelle Flow. Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu, voilà. En exergue de ce numéro de février 2020, numéro 39. Alors Flow, c'est un magazine qui permet de réfléchir pour mieux agir, un magazine autour de l'empathie, de la créativité, des valeurs centrales aujourd'hui, aussi du slow tourisme, des nouvelles façons de s'évader, ça fait du bien en ce moment, la pensée positive, donner pour mieux recevoir. C'est un très très beau magazine, une très belle revue qui fait du bien. Flow, c'est tous les mois. Et ça coûte 7,90 €.
Disorder! Disorder! T'as eu Anaïs, tu sais si elle vient?
M'étonnerait.
Je sais pas s'il faut insister comme ça pour la sortir, pour lui changer les idées. Parce que la fois qu'on l'a traînée, dès qu'elle est arrivée, elle a bu 3 shots direct. Elle s'est cassée la gueule du tabouret. Elle a vomi. Mmh.
21h.
À 21h.
Yeah.
vivant, surtout chanteur populaire, qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage.
Sébastien, je suis avec Gérald du stand Urban Comics au Hellfest. Bonjour Gérald.
Salut.
Alors pourquoi un stand de comics dans un festival de métal ?
Ah, c'est une bonne question. Bah, en fait, il s'avère que les organisateurs, notamment Alex, qui est un des deux responsables du Hellfest, est super fan de comics. Et il savait qu'il y avait une série qui était sortie aux États-Unis, qui a commencé à sortir il y a un mois en France et qui se terminera avec le troisième tome en fin d'année sur Batman Metal. Et donc, effectivement, fan de comics, métal, organisateur d'un festival, il s'est dit « Ouais, moi, je tenterais bien le coup d'essayer de contacter les éditeurs aux États-Unis pour faire venir quelques auteurs. »
Alors, comment ça va se présenter? Parce qu'en France, c'est pas édité de la même manière qu'aux États-Unis. Là, ça doit être en volume.
Alors, exceptionnellement, c'est vrai que pour cette histoire, elle n'a pas eu de prépublication en fascicule, comme c'est le cas pour la plupart des séries, et qu'ils l'ont édité tout de suite en album.
Et alors, il est comment, ce Batman Metal?
Ben... Alors, d'un point de vue personnel, bien évidemment, c'est vrai que ces derniers temps, que ce soit chez Marvel ou chez DC, il peut y avoir des bonnes idées. Souvent, ils se copient les uns les autres, on retrouve les mêmes ersatz de personnages et d'histoires. Et là, le fait que ce soit en trois tomes, je me dis peut-être qu'ils vont pas se planter, parce qu'habituellement, dès qu'ils tirent en longueur, on sent des petites caillades. Et là, on est sur un récit où en fait, on sait que Batman a toujours planqué, enfin, caché plein de trucs à ses acolytes, même voir... avoir des plans pour les éliminer. Et là, tout d'un coup, bah, en fait, c'est au lecteur qu'il a caché des trucs. Ah, quel enfoiré, hein.
Ça, c'est original.
Ouais. Et donc, du coup, on va apprendre que depuis qu'il y a eu tous ces multivers, ces opportunités d'alternatives d'autres personnages, d'autres Batman, que je vous invite à découvrir dans les différentes histoires, et ben là, ils ont affronté des adversaires qui, en règle générale, bénéficiait d'un pouvoir lié à un métal en particulier. Et donc, il mène son enquête pour savoir quelles sont les propriétés de chacun de ces métaux et essayer de se les approprier. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des autres alternatives de Batman qui viennent de ces fameux mondes parallèles, mais qu'on n'avait pas encore découvert, et qui, en règle générale, ont éradiqué beaucoup de formes de vie, surtout les super-héros, mais parfois un petit peu plus large, et qui vont débarquer. Et il y a un troisième élément qu'il faudra découvrir.
Donc des Batman maléfiques, genre Venom,
l'erreur, Venom, Spider-Man. J'ai dit si, mais tu vas
je sais bien. Mais on faisait le lien tout à l'heure entre les deux maisons d'édition qui se copient, etc. Ouais. Est-ce que c'est un peu l'idée, quoi?
On va voir, il va y avoir d'autres... C'est plus subtil que ça.
D'accord, ok. Sinon, toi en tant que festivalier aussi, ouais, est-ce que tu apprécies la musique métal?
Alors, moi j'ai vraiment grandi avec... je me souviens, il y a 35 ans, j'étais le seul à écouter Pink Floyd ou Led Zeppelin à l'école. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des oncles qui m'ont appris un truc. Et du coup, on est en train de faire... Ouais, j'ai suivi toute la culture punk qu'il y a eu sur Saint-Brieuc et dans les Côtes d'Armor, tout ça, et je venais du temps du Fury Fest.
Donc là, ta scène, c'est plutôt la Warzone, alors?
Voilà.
T'as vu quel concert pour l'instant?
Pour l'instant, aucun, parce que le boulot demande beaucoup de temps, et du coup, j'ai pas eu l'opportunité, mais là, aujourd'hui, l'équipe est complète, et je compte bien... remédier à ça, et notamment mes collègues m'avaient dit qu'il était hors de question que je loupe Iron Maiden, vu que de tous mes groupes phares, c'est le seul que j'ai jamais vu.
Ah oui, bah il faut y aller alors.
Ouais.
Bon, sinon la librairie donc est à Nantes.
Ouais, moi je tiens la mystérieuse librairie nantaise avec deux associés, et ça fait 8 ans qu'on est là. Il s'avère qu'avec un de mes collègues, ça fait plus de 30 ans qu'on lit du comics, et on avait justement fait découvrir à notre public le comics hors super-héros que beaucoup de personnes ne méconnaissaient, sauf bien sûr grâce à Walking Dead, qui a amené beaucoup de personnes dans ce gouffre-là. Et là, avec le travail d'Urban, qui a repris derrière Panini, le travail de Vertigo, de DC, il y avait vraiment une remise en avant et surtout une disponibilité des titres.
Merci Gérald.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Radio G 101.5 FM.